France Culture.
Bonjour Gaëlle Loriot-Prévost.
Bonjour Caroline Brouet.
C'est le quatrième épisode que j'ai intitulé « Construction et tissage, l'art de la maille métallique ». Ça pourrait paraître comme ça très spécifique, pointu, technique, ça l'est hein, en partie. Mais ce qui est formidable, c'est quand on commence à s'intéresser, comme je l'ai fait pour ces émissions, à la maille métallique, on découvre un monde. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le coffret que vous avez dirigé, qui est sorti chez Gallimard en 2025, est un coffret dédié à la maille métallique, qui fait plus de 2300 pages, qui est divisé en deux volumes, donc on n'imagine pas, mais oui, ça peut contenir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on va essayer en 30 minutes de raconter ce qu'est la maille métallique et ce que vous en faites et pourquoi vous l'aimez autant dans votre travail de designer, architecte et architecte d'intérieur. Alors d'abord, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un tissage de fils de métal, tout simplement ?
Oui, tout simplement, c'est un tissage de fils de métal. C'est les métiers à tisser, à proprement parler, sont exactement les mêmes. Il y a une chaîne, il y a une trame, qu'un métier à tisser qui fait un tissu pour un jean, etc. Il y a deux grands types de mailles métalliques. Il y a la maille tissée, ce dont on vient de parler, qui se travaille sur un métier. Et il y a aussi une autre maille que nous appelons la maille spiralée, dans les deux grandes familles. Parce qu'après, la maille métallique, quand on regarde l'ensemble des mailles métalliques que nous avons posées à la Bibliothèque nationale de France, parce que je reviens un petit peu en arrière, mais c'est la Bibliothèque nationale qui nous a permis de faire toutes ces recherches. Parce que aussi, on avait des besoins de matériaux particuliers, parce que quand vous travaillez sur des projets de très grande dimension, avec des contraintes, parce que on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on a des contraintes feu, des contraintes acoustiques qu'on doit absolument respecter, on a cherché quel matériau ne brûle pas. Il y a le verre, le métal, le béton. Et quel matériau nous permettrait de travailler en grande dimension ? Parce que quand vous travaillez sur des grands projets, vous avez des grands plafonds, des grands espaces. Si vous mettez des petits modules, 60 par 1,20 m, les uns à côté des autres constamment, et un côté répétitif, bon, ça manque un peu d'ampleur par rapport à l'architecture qui est dessinée. Et donc, sans mauvais jeu de mots, nous avons remonté la filière du fil métallique. Nous nous sommes tournés vers Usinor Sacilor à l'époque, c'était par ArcelorMittal, et nous sommes allés les voir et on leur a demandé « Mais à qui vendez-vous votre fil ?» Et donc, ils nous ont dirigés vers un certain nombre d'entreprises françaises et étrangères que nous avons rencontrées et qui nous ont montré qu'ils faisaient de ces fils. Donc, ils faisaient des mailles, mais des mailles qui étaient dédiées surtout à des tapis transporteurs, à des filtres dans la pétrochimie, à des filtres dans la pharmacie, à des durites ou des protections de moteur, etc. Mais rien pour l'architecture, rien n'était vraiment visible. Et nous, ce qu'on a fait, on a pris ces matériaux, on a pris la matière fil, on a regardé ces mailles, mais on regardait jamais la même chose que l'industriel dans les mailles, parce que quand un industriel, quand il travaille sur un filtre, il regarde le vide. Il faut que le vide soit d'une précision extrême et redoutable. Quand le vide doit faire 3 microns, il doit faire 3 microns, mais sur des centaines de mètres. Pas juste de temps en temps, il fait 3 microns, après 3 microns et demi, etc. Alors que nous, nous ne regardions pas le vide, nous regardions la matière. Donc, pendant un certain nombre de temps, il y a eu des contradictions, des incompréhensions entre nous, quel que soit
le monde. Vous voulez dire entre le monde industriel et le monde architectural ?
Exactement. Parce que nous, on regardait la matière, on regardait ce qu'on pouvait en faire, etc. Et eux regardaient le vide. C'était assez drôle, quoi. Bon, après, le vide nous intéresse pour d'autres choses aussi, mais c'était quand même assez amusant. Donc, en rencontrant ces industriels, très variés, parce que au sein de la bibliothèque, il y a 12 mailles différentes qui ont été dessinées, installé. Et quand on dit qu'on dessine la maille, c'est-à-dire on dessine le fil, on peut déterminer son diamètre, son épaisseur, sa texture, sa nature. Après, évidemment, il faut dessiner et travailler sur toutes les accroches, parce que en plus comme c'était une nouveauté, on ne savait pas comment ça allait tenir, ce que ça allait faire, etc. Donc il y a des tests en amont, des prototypes, même chez les industriels qui ont développé ces mailles, qui ont été faits pour être sûr que ça puisse tenir, que ça fasse garde-corps, que si on doit marcher dessus, qu'on puisse marcher dessus, etc. Parce que ça n'avait jamais été utilisé dans ce sens. Et quand je dis qu'il y a 12 mailles qui font des habillages muraux, des sols, nous avons travaillé ces mailles aussi pour faire des luminaires. Par exemple, tous les mâts des luminaires de la Bibliothèque nationale de France sont, eux, en maille qui n'est ni tissée ni spiralée, mais c'est plus comme un tricotant, parce que c'est autour d'un tube. Et là, c'était assez drôle aussi de travailler avec l'industriel qui, lui, quand il faisait du tricotin, était toujours sur un support mou, alors que nous, on lui demandait de faire du tricotin sur quelque chose de rigide. Donc, il a fallu aussi discuter, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Donc, ce dialogue était absolument constant. Et quand nous avons rencontré ces industriels, au départ, ils avaient un peu du mal à nous croire qu'on allait pouvoir...
Vous n'étiez pas très crédible.
Non, parce qu'ils ne connaissaient pas. Le monde de l'architecture, pour eux, c'était quelque chose qui était complètement inconnu. Donc, ils se demandaient, est-ce que vraiment on va réussir, on va aller jusqu'au bout pour pouvoir dessiner tous les détails d'accroche. Et aussi que le maître d'ouvrage, l'État, ici pour la bibliothèque, du moins, accepte que ces nouveaux matériaux, parce que c'était des nouveaux matériaux, soient mis en œuvre dans leur bâtiment, parce que ça veut dire des nouveaux modes d'entretien, des nouveaux modes d'accroche, c'est nouveau. Et tout le monde a joué le jeu. Nous avons donc dessiné nos mailles au fur et à mesure des appels d'offres, parce que tout ça aussi, ce sont des appels d'offres publics, donc ça veut dire que plusieurs fabricants pouvaient répondre. On a eu d'ailleurs plusieurs fabricants qui ont répondu à nos différents appels d'offres. Et par la suite, nous avons lié évidemment connaissance avec une entreprise allemande plus particulière, une entreprise GKD, qui, à la suite de la bibliothèque, est devenue vraiment un partenaire pour faire des tests, pour développer différentes mailles qu'ils ne développaient pas auparavant parce qu'ils n'en avaient pas obligatoirement, eux, la connaissance. Et nous, on était toujours demandeurs d'autres tissus, d'autres patterns, d'autres échelles de mailles, d'autres qualités de fil parce qu'on tisse l'acier inoxydable. On tisse l'aluminium anodisé, on tisse de l'aluminium brut.
Du cuivre. Du bronze.
On peut même tisser du bambou, si on le veut. Ça ouvre un panel de matériaux, ça ouvre aussi un panel d'échelles qui est absolument formidable pour les architectes. Aujourd'hui, beaucoup d'architectes utilisent la maille et c'est formidable. Alors, c'est vrai que Nous avons la chance de la développer et on a pu la développer sur différents projets parce que on a eu des projets de très grande ampleur dans lesquels nous avons fait ces installations. Et quand vous avez des centaines, voire des milliers de mètres carrés de tissus à installer, évidemment, l'entreprise est d'accord pour développer, faire des recherches, faire des tests en amont, etc. Et ça, c'est pour un architecte ou une architecte d'intérieur, ou un designer, ou la personne qui développe, qui crée, c'est extraordinaire d'avoir un allié, quelqu'un qui a envie de travailler avec vous.
Cet allié, vous l'avez donc trouvé avec ce fabricant allemand, GKD, avec qui vous travaillez depuis plus de 30 ans maintenant, cette maille métallique. C'est donc quand même aussi une rencontre humaine, en l'occurrence.
Oui. Tout à fait,
bien sûr. Vous avez réussi à vous parlez la même langue, c'est une façon de parler, bien sûr, mais c'est une amitié qui s'est développée à ce niveau-là.
Oui, mais je pense que toute rencontre avec un industriel, quel que soit le produit qui est développé par un créateur, quel qu'il soit, à un moment donné, s'il n'y a pas de rencontre humaine, ça coince parce qu'il faut être quand même sur la même longueur d'onde pour développer certaines choses ou pas, apprendre à choisir certaines routes, avoir confiance l'un dans l'autre. Parce que même l'industriel, à un moment donné, quand il fait ses tests au départ, si vous voulez, c'est lui, il décide de faire un investissement en amont d'avoir un marché. Parce que quoi qu'il arrive, même si on développe en amont, il y a toujours des appels d'offres publics. Donc, il peut perdre. C'est possible.
Bon, alors, en dehors du fait que le métal vous rappelle peut-être votre enfance à Colombelles, pourquoi vous aimez le métal en tant qu'architecte, designer ? Qu'est-ce qu'il permet, le métal ? Est-ce que c'est un matériau noble, par exemple, durable ? Qu'est-ce que vous aimez dans le métal ?
Pour moi, c'est un matériau noble, c'est un matériau durable, c'est un matériau vivant, c'est un matériau qui n'est pas froid, contrairement
à l'idée reçue.
Voilà, aux idées reçues. C'est un matériau qui permet de jouer avec la lumière. C'est un matériau aussi qui a d'autres vertus. Tout à l'heure, je disais que nous ne nous intéressions pas aux trous. On s'y intéresse quand même un petit peu parce que qui dit trou nous permet de régler des éléments acoustiques parce que derrière cette maille, ça nous permet de laisser passer de l'acoustique. Derrière cette maille, ça nous permet aussi de laisser passer la lumière. C'est un matériau qui permet de travailler la lumière. C'est un matériau qui permet de faire des murs qui sont poreux, donc des murs qui ne sont pas des murs, qui ne sont pas des séparations fermées, mais en même temps, c'est des matériaux qui protègent. C'est un matériau qui permet une certaine souplesse, parce que quand on travaille la maille métallique, la maille métallique, elle peut être tendue, donc elle peut être très, très solide, très raide, mais elle peut être aussi très souple. Quand on regarde le grand plafond que nous avons fait dans la Cour européenne de justice au Luxembourg, dans la grande salle d'audience, la salle d'audience protocolaire, la maille est courbe, elle est souple, elle devient... on se demande si c'est
comme un drapé.
Exactement.
Parfois, c'est comme un drapé métallique. C'est très étonnant. Mais en même temps, c'est pas si étonnant parce que quand on pense maille métallique, dans l'histoire, on a tout de suite l'image de la cotte de maille du soldat au XVIe siècle, par exemple. Hein. Enfin, au Moyen-Âge, en tout cas. Et d'ailleurs, je crois que dans l'industrie, vous avez tout à l'heure énoncé un certain nombre d'utilisations, de fonctions de la maille métallique. Mais dans la mode aussi, elle a un peu servi. Paco Rabanne a été surnommé par Chanel le métallurgiste de la mode parce que il avait utilisé le métal dans certaines créations, une micro-robe en plaquette de métal découpée et reliée par des anneaux. Il a même créé une nouvelle cotte de maille. Et puis ensuite, ça a été repris par Gianni Versace. Donc, on voit bien que cette utilisation. D'ailleurs, c'est aussi ce que vous dites. C'est très joliment dit dans le coffret consacré à la maille métallique. Vous dites qu'on peut tout faire avec, que c'est à la fois un corset et une robe de satin.
Oui, c'est
donc on est bien là dans l'idée du drapé.
Oui, oui. Et quand on regarde aussi à la bibliothèque, vous parlez de la cotte de maille qu'a utilisée Paco Rabanne, les murs qui habillent les sas d'entrée dans les auditoriums de la bibliothèque, c'est de la cotte de maille. Et cette cotte de maille, en fait, c'est du tablier de boucher, parce qu'en fait, les bouchers utilisent encore la cotte de maille avec les petites plaquettes reliées avec les petits anneaux, qui sont soit en inox, soit en aluminium, pour se protéger du mauvais coup de couteau qui dérape et pour se protéger l'abdomen. Donc, c'est quand même
mettre
un matériel.
Des gants, d'ailleurs, aussi, parfois, pour se protéger.
Des gants, tout à fait. Alors là, c'est encore une autre cotte de maille parce que ce ne sont que des petits anneaux qui sont accrochés les uns aux autres. Et ça, c'est la cotte de maille la plus souple qui puisse exister parce qu'elle est souple dans les deux sens. Parce qu'une maille tissée chaîne et trame, la chaîne, généralement, c'est un fil, donc c'est un câble, c'est plus souple, alors que la trame peut, elle, être rigide. Donc, c'est la cotte de maille avec les petits anneaux, c'est vraiment la souplesse totale de la maille.
Donc léger, maniable, durable, robuste, il a finalement toutes les qualités, le métal, alors même qu'il pâtit d'une image plutôt mauvaise. Vous disiez tout à l'heure qu'on a cette image d'un matériau froid. C'est pas seulement le froid, c'est bien sûr froid, mais aussi bruyant. On a toujours l'impression que le métal, ça fait du bruit, c'est clinquant. Et puis évidemment... c'est lié à la prison, à l'univers carcéral. Donc, on a trois types de réserves. Mais vous les démontez en un, en quelque sorte.
J'espère, j'essaye. En tout cas, je m'y attache. Voilà, mais même... c'est vrai que le métal, initialement, on peut dire que c'est bruyant. On entend tuk, 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 ça fait du bruit.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de ranger sans doute des couverts en métal là, un peu plus loin, là où nous enregistrons. On entend bien le métal claquer.
Exactement, on entend bien le métal claquer. Mais par contre, par exemple, quand vous rentrez... à Versailles ou dans le hall des tours du City Light, il y a des sols qui sont complètement métalliques. Et en fait, sous un sol métallique, vous mettez un résilient, c'est-à-dire une matière qui absorbe le choc, vous n'entendez plus le bruit. Vous n'avez pas fait de remarque quand vous avez monté tous les escaliers métalliques dans l'agence.
J'avais pas mis des talons qui faisaient du bruit, hein. Peut-être que ça joue.
Ça joue certainement, oui.
Vous dites également, Gaëlle Loriot-Prévost, que dans un monde d'obsolescence, la maille ouvre la voie d'une durabilité programmée. J'ai quand même l'impression que la maille vous inspire beaucoup de poésie. Peut-être pas seulement parce que on dit de la maille métallique, elle peut être spiralée, effilochée, tressée, chamarrée, mais aussi parce que ces mots qui résonnent à vos oreilles de façon familière, c'est la bobine, le feuillard, le refroidisseur, le train à fil, et qu'on a effectivement tout un monde qui s'ouvre à nous, mais à vous d'abord. Il y a beaucoup de poésie dans la maille métallique.
Oui, si on la regarde avec des yeux, j'allais dire aimants, et si on a envie de travailler avec elle, elle offre cette poésie. Elle est complètement malléable, elle se donne à l'architecture, parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'ouvrages. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir un matériau qui a une puissance qui est très forte quand on fait de l'architecture et qu'on tire dessus parce que ça fait des murs. À Madrid, c'est une façade, c'est un mur très solide qui protège des chutes, qui protège du vent, qui a une épaisseur. Je crois que le fil, il fait 7 mm de large, donc c'est un gros fil. Et vous arrivez à faire des bijoux qui sont très minutieux.
Comme la bague que vous portez à votre doigt aujourd'hui, qu'on évoquait dans une émission précédente. Vous pourriez nous la décrire, cette bague ?
C'est une bague composée de trois matériaux et de deux grands éléments. Il y a un petit chapeau au-dessus du doigt, un petit chapeau plissé, comme une micro-fraise ou une demi-fraise, et qui est accroché à un anneau qui permet de porter la bague, de glisser la bague à son doigt. Ce qui est assez fascinant pour moi, c'est que pour que ça devienne vraiment un vrai bijou, on n'a pas le droit de souder une matière noble à une matière non noble. L'acier inoxydable est considéré comme une matière non noble en orfèvrerie. Et donc, ce bijou qui a été développé avec une orfèvre pour la galerie Mini Masterpiece Esther de Bossé, elle a eu tout un travail d'une très grande minutie pour savoir comment on peut pincer cette maille pour que cette maille tienne sur cet anneau, et après comment faire tenir la pince sans souder. Donc c'est pour ça qu'elle a installé des petites pointes de résine pour tenir la maille, et la maille est bloquée. Et donc l'industriel, on lui a commandé le ruban de maille plissé avec un double ourlet. Ça ne se voit pas, mais il y a un double ourlet. Donc le double ourlet, c'est comme de la couture, pour pas que ça s'effiloche. Parce que si ça s'effiloche, évidemment, ça fait mal.
Ça reste des fils de métal.
Ça reste des fils de métal, aussi fin soit-il. Un fil de métal de cette dimension-là, s'il se défait, ben ça griffe. Donc il faut qu'un bijou, c'est près du corps, il faut qu'on ait envie de le porter. Et tout ce travail-là, c'est vraiment la rencontre d'un monde d'une finesse particulière, l'orfèvrerie. C'est certainement le plus petit objet que j'ai dessiné et qui se porte le plus près du corps. Parce que je n'ai pas dessiné de vêtements en maille, on n'a pas fait ça, parce que la maille métallique, quand elle est très très fine, on peut tisser un fil plus fin qu'un cheveu. Donc quand vous touchez de la maille tissée avec un fil plus fin qu'un cheveu, c'est de la soie, c'est extraordinaire. Mais c'est fragile, encore plus fragile que la soie, parce que vous la plissez, elle reste plissée. Le pli marque, vous ne pouvez pas la repasser. Donc c'est contrairement à un tissu de la vraie soie, vous la repassez, elle devient complètement horizontale et plane. La maille métallique très fine, elle se blesse.
Ce qui est intéressant aussi dans cette maille métallique, c'est que vous qui n'êtes pas spécialement porté sur les couleurs, Gaëlle Loriot-Prévost, à part peut-être le rouge des tapis de la Bibliothèque nationale de France, cette maille métallique, on la rencontre soit argentée, soit dorée, ou c'est vous qui la dorez, puisque dans vos réalisations, il y a à la fois des mailles métalliques que je dirais argentées, hein, et des mailles métalliques en or, ou dorées en tout cas.
Oui, le métal, initialement, il est argenté, c'est gris. Voilà. Suivant le traitement qu'on lui apporte, on peut le polir, on peut le brosser. Donc, il a une structure et une couleur différente. Il peut devenir brillant, il peut devenir satiné, il peut devenir complètement mat. Un aluminium brut, c'est complètement mat, ça absorbe complètement la lumière. Un aluminium brossé aura un léger brillant. Un inox poli, ça devient complètement miroir. Donc le métal, suivant ses finitions, même sur un fil, même sur des câbles, un câble qui est composé de plusieurs fils peut avoir différentes finitions également. Parce que si vous additionnez que des fils brillants ou que des fils mat, le câble n'a évidemment pas la même couleur. Peut-être qu'il ne faut pas parler de couleur, mais peut-être qu'il faut parler de reflet. Et à la bibliothèque, on comprend bien que le métal se colore parce qu'il prend le reflet des tapis, il prend le reflet des meubles. Quand on est ici, quelle couleur est
le lustre albatros.
En fait, vous êtes capable de dire sa couleur?
Non, ma couleur gris métal. Et puis en même temps, c'est brillant, donc tout se reflète dedans. Et selon qu'on entre d'un côté ou de l'autre de la pièce, il prend des teintes différentes. Ouais.
Et c'est ça la force du métal. C'est qu'il permet beaucoup de... Comme il réfléchit la lumière, il se teinte de son environnement.
Il n'empêche que dans vos réalisations, Gaëlle Loriot-Prévost, si je prends le hall des tours de la BNF habillé de tapisseries en maille métallique, en acier inox, ou bien le grand théâtre des Cordeliers à Albi, que vous avez réalisé en 2014, c'est très différent comme rendu. Et il y a beaucoup plus de doré, ou même le pavillon du four du château de Versailles. Tout ça, c'est très doré. On est dans les dorures.
Complètement dans les dorures.
Ce qu'on n'a pas à la BNF.
Exactement. Là, c'est vrai, parce que ça soit à Versailles ou à Albi, en fait, nous avons travaillé avec une maille aluminium pour les intérieurs que nous avons anodisée dorée. L'anodisation, c'est un bain. Le métal est dans un bain. Et plus vous laissez le métal longtemps dans un bain, plus il devient foncé. Il
y a comme nous, on va être bientôt dans un bain, parce qu'il pleut beaucoup dehors, là on entend bien la pluie.
Ça sera heureusement pas le même, parce que ça ne sera pas bien dans un bain d'anodisation. Donc pour avoir des mailles dorées, il faut laisser la maille dans ce bain d'électrolyse chimique, pas trop longtemps, pour que le doré soit un doré clair ou un doré champagne. Et nous avons travaillé avec cette couleur et à Versailles et à Albi pour deux raisons différentes. À Versailles, bon, ça paraît évident, quand on va visiter le château, à peine la grille, on voit déjà du doré sur les extrémités de la grille du château, etc. Naturellement, on s'est dit, comme notre idée était de reprendre pour les intérieurs, tous les codes de Versailles, mais en métal, la maille dorée est devenue assez naturellement...
Elle s'imposait.
Par contre, à Albi, c'était pour une toute autre raison, parce que Albi, c'est une ville rose, avec une brique d'une teinte très particulière, et ce travail sur cette couleur doré, mais qui est entre le doré, le cuivré, etc. C'est un peu plus complexe que ça, parce que en plus de la maille dorée, nous avons fait un travail sur la façade avec des verres transparents, des verres oranges, etc. Donc, et l'idée, c'était que le théâtre, qui est quand même, c'est assez imposant, un théâtre, parce que bon, il y a la salle, il y a la scène, c'est quand même un grand vide. Et pour essayer d'alléger et de donner à voir quelque chose qui soit un peu plus vivant, on a travaillé sur cette couleur et avec des transparences, parce que sur la façade extérieure, le théâtre, c'est comme s'il y avait une espèce de grand abat-jour, une grande corolle autour du volume lui-même qui est théâtre, qui fait que le théâtre semble un peu plus comme une espèce de grande lanterne le soir. et qui est un peu plus léger aussi le jour avec le soleil qui traverse l'ensemble des épaisseurs de mailles et l'ensemble des couleurs des verres.
Entre le petit objet comme celui que vous portez à votre doigt et que vous réalisez et la direction artistique de très grands ensembles comme ceux que vous citez là, et on n'a pas parlé du Vélodrome, de la piscine olympique de Berlin, ni de la gare de Villejuif, Gustave Roussy pour le Grand Paris Express, du l'hippodrome de Longchamp, où, là aussi, vous avez utilisé des mailles métalliques. Il y a entre ces deux échelles-là, une échelle qui est moyenne, j'ai envie de dire, dont vous nous avez déjà parlé, Gaëlle Loriot-Prévost, qui est votre tube, parce que vous avez aussi créé, conçu des séries, des collections de luminaires, que vous avez intitulé « In the Tube 360 degrés ». Pardon, c'est comme ça que je le lis, mais c'est peut-être pas comme ça que vous le dites. Et là, dans ces collections de luminaires, la maille, elle est devenue fine comme de la dentelle de tulle, peut-être, et elle est déclinée sous de multiples formes. Donc même dans vos tubes lumineux, Gaëlle Loriot-Prévost, vous mettez de la maille métallique.
Oui. La vertu de la maille, même à travers une ampoule, c'est qu'elle... elle transcende la lumière. Et donc, quand on enveloppe une source lumineuse avec de la maille métallique, la lumière est diffractée, la lumière est plus douce, et ça donne une ambiance lumineuse qui est différente et qui est beaucoup plus chatoyante à l'œil. Et ça permet aussi de rendre le tube domestique. Et de pouvoir amener cette lumière, cet objet industriel, à l'intérieur des maisons, pour l'avoir chez soi. Parce que si vous prenez un tube industriel, juste avec... Aujourd'hui, on dit un tube, on dit plus de néon, ouais. Mais parce que maintenant, tout est en LED. Mais la lumière est très froide, vous êtes ébloui, vous l'avez direct dans vos yeux, c'est pas très confortable. Alors, vous lui mettez... un voile de maille, un voile de tissu métallique.
Et le tour est joué.
Et le tour est joué, exactement.
Au fond, on a l'impression quand même que cette maille métallique que vous utilisez depuis fort longtemps maintenant, depuis une trentaine d'années, est effectivement aussi bien dans vos petits objets que dans les réalisations à grande échelle, elle correspond à votre vision ou à votre conception même de l'architecture en général ou même de l'architecture en ville. Vous écrivez d'ailleurs à ce sujet qu'elle sert de support à votre vision de la ville.
Oui, parce qu'elle a tellement de qualité, elle a tellement de vertus qu'elle permet beaucoup de choses. Et mais je pense que je ne suis pas la seule, et nous ne sommes pas la seule à le penser, parce que même aujourd'hui, les mailles de la bibliothèque, les 12 mailles que nous avons dessinées pour la bibliothèque, sont entrées en collection au centre Georges Pompidou. C'est vraiment la récompense ultime. L'industriel se retrouve au musée. Et pareil pour les tubes développés avec DCW, ils rentrent aussi en collection parce qu'ils ont aussi de la maille. Donc c'est vraiment un ensemble. Et ça, c'est on n'est pas seul à croire aux vertus de ce matériau et aujourd'hui à le comprendre. Et ça, c'est une belle histoire.
Merci pour cette défense et illustration de la maille métallique. On se retrouve demain pour le dernier épisode de ces entretiens, Gaëlle Loriot-Prévost. Nous continuerons de parler de ces grands projets, ces petits objets que vous réalisez, que vous concevez. Vous nous parlerez de votre conception de l'architecture plus largement. On sortira de la maille métallique. Merci et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Gaëlle Loriot-Prévost. Réalisation Anne-Thérèse Franchini, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.